Chapitre 6. Et donc, nous allons commencer au verset 6. Et ce sont les versets 9 et suivants jusqu'au 13, 9 à 13 qui nous concernent plus, mais on va trouver le contexte en lisant du verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous chanterons, c'est le 258. C'est un chant d'aspiration qui nous prépare pour cette méditation sur la parole. Mon Dieu, plus près de toi. 258. Gardez Matthieu 6 sous vos yeux. Et nous allons commencer aujourd'hui dans cette partie du Sermon sur la montagne, une étude qui va durer, Dieu voulant, quelques semaines sur la prière du Seigneur. ce qu'on appelait autrefois l'oraison dominicale, mais plus simplement le Notre Prière ou la prière du Seigneur. D'abord, un mot au sujet de la place et l'importance de la prière du Seigneur. Évidemment, rien ne peut, ne pourra nous intéresser, nous concerner plus que le fait d'être enseigné par le Seigneur lui-même sur comment prier. Parce que prier, c'est vivre en contact avec notre Dieu. C'est savoir tenir relation avec Dieu. Et donc, lorsque le Seigneur se met à nous enseigner sur ce sujet, nos oreilles sont grand ouvertes. Deuxièmement, la prière du Seigneur a toujours tenu une grande, grande place dans la pensée chrétienne. Si je tiens pour preuve, simplement les catéchismes des églises différentes de la foi chrétienne. Si vous regardez que ce soit le catéchisme nouveau de l'église catholique ou les catéchismes protestants, le catéchisme de Westminster, de Heidelberg, de Calvin, de Luther, vous allez trouver à la fin de tous ces catéchismes toute une section sur la prière du Seigneur. Et cela veut dire tout simplement qu'au cours de l'histoire chrétienne, les chrétiens étaient catéchisés sur la prière du Seigneur, c'est-à-dire ils ont dû apprendre les questions et les réponses sur la question, sur la prière du Seigneur. Ils ont dû comprendre en détail la prière du Seigneur. C'était une tâche de chaque pasteur d'assurer que ses fidèles comprenaient la prière du Seigneur. Parce que cette prière a un rôle particulier. D'abord, c'est une prière modèle. Sans doute le Seigneur nous a donné cette prière dans cette forme parce que c'est facilement mémorisé et cela nous donne un résumé de toutes les requêtes que nous devons prier. Je suis convaincu, absolument convaincu, qu'il n'y a rien pour lequel nous puissions prier qui n'est pas inclus dans ces six requêtes de la prière du Seigneur. Et nous allons voir dans les semaines prochaines pourquoi je dis cela. Mais aussi, son rôle, l'Église a pensé, c'était de nous donner aussi un résumé de toute la vie chrétienne. Parce que dans la prière Seigneur, du Seigneur, nous avons des points fixes qui sont les points de souci, les points d'articulation autour desquels notre vie chrétienne tourne. Et c'est pour ça que nous en parlons au Seigneur dans cette prière. Nous évoquons le pardon des péchés, la bataille avec Satan, ne nous induites pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous parlons du royaume de Dieu, du nom de Dieu, de la volonté de Dieu, de nos besoins matériels, donne-nous notre pain quotidien. Alors, cela couvre toute la vie que nous sommes en train de vivre en cheminant vers la gloire éternelle. La structure. Il y a six requêtes et une invocation. L'invocation, ce sont les mots Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête, c'est une adresse, une manière de s'approcher de Dieu. Et ces six requêtes sont dans deux groupes de trois requêtes. Vous les voyez très facilement quand vous considérez que les trois premières requêtes concernent directement Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et puis, trois requêtes qui nous concernent très directement. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Juste un détail, les trois premières requêtes sont vraiment, dans un sens, une requête. ils sont plus soudés que les trois dernières quêtes, qui sont liées par le mot et en grec. Et donne-nous notre pain quotidien et. C'est pas forcément dans la traduction française, mais c'est là dans le grec. Et donc pardonne-nous nos offenses et ne nous induis pas dans la tentation. Mais dans les trois premières requêtes, il n'y a pas le et, c'est juste trois requêtes qui sont formulées avec le même ordre de mots chaque fois. Il y a un verbe à l'impératif, ensuite un nom, un pronom, un article, un nom et un pronom. En grec, c'est comme ça, et les trois sont exactement la même forme. Donc, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume, que s'accomplisse ta volonté. Et il n'y a rien entre ces trois requêtes, ce qui nous pousse à dire que ces trois requêtes sont vraiment une unité très, très, très soudée. Alors que les trois requêtes qui nous concernent sont plus disparates. Le pain et le pardon et la protection. Bien. Maintenant, juste quelques leçons générales avant d'aborder juste les premiers mots. Et la première chose, c'est que la vraie prière dépend d'une bonne relation avec Dieu et une bonne connaissance de Dieu. On ne peut pas prier comme ça. La prière, quand elle est véritable et entendue par le Dieu qui est là, cette prière-là vient d'une bonne source. Et cette source, c'est une vraie relation avec Dieu et une bonne connaissance de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le texte, Jésus commence en disant ceci. Il dit au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et ensuite, dans le verset 7, il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, vaines parce que c'est pas entendu, de vaines paroles comme les païens. Donc Jésus, dans cette partie, est en train d'exposer la futilité de la religion des hypocrites et des païens. C'est-à-dire des païens, des gens qui adorent un faux Dieu, qui n'existe même pas parce qu'ils l'ont inventé. Les païens et les hypocrites, c'est les pharisiens qui adorent le vrai Dieu, qui s'est révélé par Moïse et les prophètes, mais qui l'adorent mal parce qu'ils sont hypocrites. Donc les uns n'ont pas de la vérité et les autres n'ont pas la véracité du cœur. Il vous faut objectivement le vrai Dieu qui se révèle et il vous faut subjectivement un cœur sincère. Donc Jésus est en train d'exposer que ces deux groupes ne connaissent pas le Père. Ne priez pas comme les hypocrites, ne priez pas comme les païens. C'est des vaines paroles, c'est des prières sans récompense. Et il est en train de nous dire, leur manière de prier souligne le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu comme Père. Sinon, ils ne pourront pas, ils ne pourraient pas prier comme ça. Les gens qui multiplient les paroles en pensant que, à force de paroles, vous savez, il y a des religions où on répète des 5 fois, 10 fois les mêmes paroles et on les compte, n'est-ce pas? Et on pense qu'à force de répétition, de la multiplication des paroles, Dieu va entendre. Ça montre qu'une seule chose, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu. Comment est-il pour penser que un tel procédé puisse être efficace avec lui? Deuxième leçon générale, c'est que et nous allons voir donc que cette vraie connaissance de Dieu en tant que Père aux cieux est vitale. Mais la deuxième leçon, c'est simplement que la vraie prière doit être guidée par les prescriptions du Seigneur et non par nos imaginations et nos caprices. Regardez dans le verset, le verset 9, tout au début. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Chaque mot est important. Voici, je vous pose maintenant la révélation. Donc, le comment vous devez prier. Nous, laissés à nous-mêmes, nos prières seraient tellement déréglées que ces prières ne seraient pas acceptables au Dieu Très-Haut. Et nos désirs sont tellement égarés qu'il faut nécessairement les réprimander plutôt que de les prier, souvent. Et donc, nous ne pouvons pas nous lancer dans les prières comme cela. Voici donc comment vous devez prier. Et ce n'est pas simplement les mots que nous devons comprendre dans la prière du Seigneur. Il y a un esprit, il y a une attitude qui est véhiculée par cette prière. Pensez à cette révérence filiale, notre Père qui est aux cieux. À cette loyauté dévouée, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cette soumission tranquille, ta volonté faite sur la terre et dans ma vie. Cette conscience de notre dépendance, donne-nous notre pain quotidien. Cette conscience de notre culpabilité, pardonne-nous nos offenses. Cette conscience de notre faiblesse et notre vulnérabilité ne nous induit pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a toute une attitude, une perspective, un esprit de cœur qui est communiqué par la prière du Seigneur et que nous devons avoir et nous devons vivre avec cette attitude. Ok, maintenant, pour ce matin, nous voulons surtout comprendre, et je vais essayer d'aller rapidement maintenant, que la vraie prière commence toujours par un acte de réalisation du caractère de celui à qui nous prions. La vraie prière commence toujours par un acte de réalisation, de se rendre compte du caractère de celui à qui nous prions. Les gens disent souvent, vous savez, j'ai prié, mais rien ne s'est passé. Et souvent, le problème, s'il s'agit de vrais chrétiens, c'est qu'ils se sont précipités dans la présence de Dieu en pensant qu'à eux-mêmes, qu'à leurs problèmes, qu'à ce qu'ils voulaient. Et de telles prières vont à peu près au plafond, mais pas plus loin. Nous avons la tendance à être tellement égocentriques, à être emprisonnés par nos propres pensées et notre propre existence, que nous pouvons facilement aller dans la présence de Dieu ou essayer de nous approcher de Dieu sans jamais nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire ou de qui nous adressons en priant. Donc, lorsque le Seigneur nous dit, vous devez prier comme ceci, il n'y a pas de requête au début. Il y a juste ces mots, Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur est en train de nous apprendre que la prière commence avec cette prise de conscience de qui est ce Dieu à qui je vais maintenant demander quelque chose. Nous devons donc apprendre à nous arrêter et à réaliser qui est ce Dieu. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Et vous allez voir en lisant les prières de la Bible que les hommes et les femmes de Dieu font toujours cela. C'est vraiment une pratique. Premier exemple. Ne tournez pas, mais je suis en train de vous lire une prière d'Ézéchias, un des rois d'Israël, un des rois pieux. qui se trouve en Ésaïe 37. Écoutez, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Donc il y a une menace d'invasion qui la prend. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il déplie la lettre devant Dieu. Il va prier. À qui il adressa cette prière? Maintenant, écoutez bien. Il n'y a pas de requête au début. Éternel des armées. Cela veut dire Éternel des armées célestes. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis entre les chérubins. Toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Vous voyez que au début de sa prière, il y a tout un moment où il se rappelle, où il se dit lui-même, il se prêche presque, qui est Dieu? Donc Éternel des armées, Éternel Dieu d'Israël, assis entre les chérubins. C'est une manière de parler de sa demeure céleste. Toi qui est le Dieu de tous les royaumes de la terre et qui a fait toutes choses. Et lorsque tu te rends compte de tout cela, ça change ta manière maintenant de prier, de demander. Le deuxième exemple que je voulais vous donner se trouve en Néhémie, chapitre 9, excusez-moi. Et je vais juste vous lire deux versets. Ce sont des sacrificateurs qui sont exhortés par Néhémie et il leur dit: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. Et maintenant il prie, qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elles renferment, à tout cela tu donnes la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc toute cette invocation, cette adresse, cette manière de prendre la mesure de celui à qui nous parlons. Et donc nous devons comprendre que puisque la prière du Seigneur est très courte et censée être courte, Jésus nous donne juste notre Père qui est aux cieux. Mais il y a des volumes dans ces deux concepts qui se trouvent dans l'idée du Père et dans l'idée aux cieux. Et nous allons juste voir un moment, mais donc presque deux réalités opposées. Parce que lorsque nous allons à Dieu et nous disons Père, nous évoquons le lien le plus intime possible et familial même. Et lorsque nous disons aux cieux, nous évoquons le fait que ce Dieu est tout autre. Il est transcendant. Il n'est pas dans notre poche. Il est insondable. Calvin dit ceci dans son Harmonie des Évangiles. Il dit toutes les fois que nous nous mettons à prier, il est en train de commenter sur les mots Notre Père qui est aux cieux. Et il nous faut considérer deux choses, tant pour avoir accès à Dieu que pour nous reposer en lui avec une pleine et parfaite confiance, à savoir son amour paternel envers nous, notre Père, et sa puissance infinie qui est aux cieux. C'est pourquoi le nom de Père lui est attribué, afin que nous ne doutions pas qu'il veut nous recevoir avec bienveillance, prêt à exaucer nos prières, bref, qu'il est de lui-même enclin à nous aider. Donc, prenons chacune de ces deux parties. Et je commence avec aux cieux. Le Père qui est aux cieux. Jésus n'est pas en train de faire allusion à un endroit où Dieu serait confiné, notre Père qui est aux cieux. Nous savons que la Bible enseigne que Dieu est omniprésent, il est en tout lieu, Il est pur esprit, il n'est pas matériel, son être ne peut pas être distendu dans l'espace se trouve en lui plutôt, en celui qui n'est pas matériel. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui, il y a un endroit où Dieu se révèle en ce moment de manière spéciale, qu'on appelle le paradis, ou parfois on dit le troisième ciel. Nous le savons. Nous savons que Paul dit qu'il a été élevé au troisième ciel, il a vu des choses qu'il n'est pas permis de dire. Nous savons que Jésus est monté au Père. Nous savons qu'il y a un endroit où Dieu manifeste sa présence de manière palpable. Mais quand Jésus nous apprend à prier notre Père qui est aux cieux, il est plutôt en train de nous parler de qui est Dieu. Je pourrais vous montrer des dizaines et des dizaines de versets bibliques où l'idée aux cieux signifie la grandeur, la magnificence, la transcendance, que Dieu est tout autre. Et c'est pour cela que nous pouvons le prier. Ecclésiaste 5, 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est aux cieux et toi sur la terre. Autrement dit, il y a un décalage énorme entre qui tu es et qui il est. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche parce que Dieu est au ciel, est aux cieux. Il est céleste, il est autre. Le psaume 113. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards pour regarder les cieux et la terre. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son roi, contre son Messie? Et ça se passe partout aujourd'hui. Les hommes se liguent et même les rois de la terre se liguent contre le vrai Dieu et contre son Messie. Mais le texte nous dit, celui qui siège dans les cieux rit. On appelle Dieu ici celui qui siège dans les cieux pour évoquer le fait qu'il est tellement transcendant, tellement au-dessus, plus grand, autre que tout ce que l'homme peut fomenter, qu'il rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il a la puissance de punir et il a la puissance de délivrer, de bénir, quelle que soit la situation. Le psaume 33, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Celui qui regarde du haut des cieux, c'est une manière de parler du fait que Dieu est tellement sage que lorsque je prie, je ne dois jamais venir paniquer devant Dieu parce qu'il sait parfaitement et en détail tout ce qui me concerne et tout ce qu'il me faut pour solutionner quelques problèmes que j'ai. Le Père qui est aux cieux, qui est autre, qui est infiniment grand en sagesse, en puissance, en bonté, qui est tout simplement autre. Malachie 3, 10, mettez-moi, dit Dieu, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parce que dans la Bible, les cieux étant la demeure divine, c'est le lieu de la largesse incroyable. la largesse, la générosité. Et donc, Jésus est en train de nous dire par ces quelques mots, quand vous priez, vous devez dire, Notre Père qui est aux cieux, nous venons à ce Dieu en sachant que il est insondablement haut, très grand, en sagesse, en bonté, en amour, en puissance, en justice. Et nous venons devant lui en sachant qu'il tient tout dans sa main. Pour terminer ce point, le deuxième point sera plus court et je finirai avec le deuxième point, mais pour terminer ce premier point, priant le Père qui est aux cieux, je veux vous raconter une petite anecdote au sujet de Martin Lloyd-Jones, le grand prédicateur du XXe siècle à Londres, à Westminster Chapel. Le matin du dimanche 18 juin 1943 à Westminster Chapel à Londres, alors que Martin Lloyd-Jones prononçait une longue prière avant de prêcher, on entendit s'approcher un missile allemand 6. Le bruit devint terrifiant. La bombe descendait, semblait-il, vers l'assemblée en prière. Et vous vous rappelez, c'est l'époque où Londres est vraiment la cible des bombes sans cesse de la part de l'armée allemande. Et une bonne partie de la ville est détruite. Une explosion énorme se fit entendre. Le missile s'était écrasé sur une caserne tout près de l'église. Le silence revenu, l'auditoire, couvert de poussière, se rendit compte que le prédicateur n'avait pas un instant interrompu sa prière qu'il menait à son terme sans référence à la catastrophe évitée. On comprit alors que pour lui, pour cette âme de Dieu, en présence de Dieu, rien ne peut distraire l'attention, pas même les missiles d'Hitler. Notre Père qui est aux cieux. Je crois que Lloyd-Jones comprenait la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si j'aurais pu prier de la sorte. Et parfois, Dieu donne à son serviteur une confiance particulière. Ok, notre Père qui est aux cieux. Et là, Jésus nous enseigne bien sûr que Dieu n'est pas simplement grand, mais qu'il est aimant et paternel. Je ne vais pas m'allonger beaucoup parce qu'il y a quelques semaines, j'ai prêché sur ce sujet que vraiment la clé de la prière chrétienne et de la vie chrétienne, c'est de comprendre. Nikki, est-ce que tu peux monter le chauffage juste un tout petit peu, alors que tout le monde met son. Moi aussi, j'ai pas. C'est ici la grande révélation que Jésus donne, qui change tout. C'est ici un point de division entre la religion juive de l'Ancien Testament, qui est préparatoire, et la religion chrétienne qui est l'accomplissement. Les Juifs n'appelaient pas Dieu Père en tant qu'individu. Vous pouvez trouver des prières dans l'Ancien Testament et dans les écrits juifs où les Juifs appellent Dieu notre Père, mais en utilisant le mot abinu, alors que Jésus nous pousse à utiliser le mot Abba, qui est le mot qu'un enfant utilise pour dire papa, qui est un mot d'intimité. Alors que Abinu a tendance à mettre Dieu à une certaine distance de nous. Donc le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, en nous amenant à lui, il nous amène dans sa relation avec le Père, hein, une relation fils au Père, une relation d'acceptation. Dieu nous a prédestinés dans son amour, dit Paul, être ses enfants, pas simplement ses serviteurs, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Et cette relation par laquelle nous pouvons prier à Dieu et lui dire Père est une relation qui est tellement incroyable qu'il nous est difficile vraiment de nous élever jusque-là, n'est-ce pas? Même dans la liturgie de l'Église d'Antiquité qui s'appelle la liturgie du Saint Christostome, c'est un des pères d'Église, au début de la prière, on demande que Dieu nous donne la capacité d'oser l'appeler Père avant de prier le Notre Père. Tellement les chrétiens se sentaient vraiment, est-ce vrai que je suis pas simplement serviteur, admis à Dieu, accepté et pardonné, mais un enfant chéri qui a cette relation particulière et intime. Vous n'êtes plus étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu, dit Paul en Éphésiens. Et dans sa première épître, Jean dit, Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Miracle, miracle des miracles. Le psaume 103, 13 nous dit, Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et Jésus est en train de faire venir en plein jour cette réalité que par Jésus-Christ, Dieu se fait père des croyants. Vous vous rappelez du frère aîné dans la parabole du fils prodigue? Le père dit quelque chose au frère aîné qui est intéressant. Il dit, Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et nous voyons donc que cette relation, moi je ne peux pas dire ça au sujet de n'importe qui. Je le dirai à mon fils ou à mes filles. Tu es toujours avec moi dans mon cœur, tout ce que j'ai est à toi. Mais je ne pourrais pas le dire simplement à même de bons amis, tout ce que j'ai est à toi. Je suis prêt à quitter tout ce que j'ai pour te le donner, sans problème, si tu es dans le besoin. Je me souviens d'un jour où je suis parti aux États-Unis pour voir, je devais voir le médecin et je suis passé par ma ville natale pour passer un moment avec ma famille. Et mon père m'a amené, parce que j'avais certains achats à faire, et il m'a amené et il voulait tout payer. Donc il m'a acheté ceci, cela, et des vêtements, et il a payé des photos que j'avais besoin d'acheter de la famille. Il m'a demandé si j'en voulais plus de vêtements ou plus de choses, s'il pouvait payer pour mon rendez-vous avec le médecin et les médicaments. Si j'avais besoin d'argent pour mon billet d'avion pour arriver à New York, et quand j'ai insisté de payer un jeans moi-même, il m'a permis, mais il a furtivement glissé de l'argent dans ma poche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est mon père. Et Jésus est en train de dire, c'est cette relation que Dieu vous a donné avec lui, et quand vous venez à lui, vous devez vous arrêter pour vous rendre compte de cela. Je termine en citant Martin Luther. Comment joindre ces deux choses? Celui qui est tellement autre que nous venons avec tremblement et une révérence immense, et cette intimité, cette confiance de l'enfant envers son père. Luther dit ceci, Qui se met à implorer un père dans les cieux, se sait dans la misère et abandonné sur la terre. Je m'arrête pour expliquer avant de lire toute la citation. Luther a compris que la prière du Seigneur, quand on dit Notre Père qui est aux cieux, n'invoque pas la distance. Parce que dans la prière, nous savons que quand ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce Père qui est aux cieux est en train de nous amener, de nous ramener à lui. Et donc, il prie comme ça. Qui se met à implorer un Père dans les cieux, se sait dans la misère et abandonné sur la terre. Il s'ensuit un élan nostalgique du cœur, ainsi qu'il en est d'un enfant qui, loin du pays de son père, vit dans la misère et dans la désolation parmi les étrangers, et qui dirait: Hélas, mon père, tu es dans les cieux, et moi, ton enfant misérable, sur la terre, en exil, loin de toi, au milieu du danger, dans la désolation et la détresse. Quiconque prie de cette manière est devant Dieu. Le cœur droit et élevé, et il est habile à implorer et à émouvoir la miséricorde divine. Par cette citation, Luther veut nous faire comprendre que le Père aux cieux, il est redoutablement grand, mais puisqu'il est Père, toute sa puissance et toute sa grandeur, il est en train d'utiliser en nous disant: Mes enfants en exil, priez-moi, invoquez-moi, demandez-moi, je vous ramène petit à petit, mais restez auprès de moi et confiez-vous à moi, parce que je suis votre Père qui est aux cieux. Nous allons chanter le Notre Père, terminé. Et c'est le numéro 203, et Anne va jouer une fois la mélodie pour que nous...